Ici, le monde. Premier épisode, le parfum de la paix. Le 3 août 2014, l'État islamique lance une attaque contre les yézidis du Sinjar. En quelques jours, des dizaines de milliers de personnes sont contraintes à l'exil. À partir de 2015, des familles yézidis s'installent dans la vallée de la Drôme, avec le soutien d'associations citoyennes. La famille Tsultana était la première famille accueillie dans le Diwa par le réseau d'accueil des réfugiés.
On n'a jamais pensé à venir en France. Enfin, j'avais mon cousin qui était venu en France. Après, il a fait les papiers pour ma soeur et du coup, c'est ma soeur qui nous a fait. On n'avait jamais, enfin, en tout cas, moi, j'avais jamais pensé de partir. C'est comme ça. Ça nous est arrivé une surprise. En tout cas, moi, je savais pas c'est quoi la France. Enfin, je savais pas si ça existe ou pas. Des fois, j'ai entendu les gens qui étaient en Allemagne, mais pas la France ni d'autres pays. Je suis née à Sinjar, Nainawa, en Irak, juste à côté de Mossoul. Nous, on est venus en 20 janvier 2017. On est parti à Erbil, enfin la nuit. Et on est parti en Turquie. On est resté pendant 2 jours à Istanbul parce qu'il neigeait, on ne pouvait pas venir en France. Et du coup, on est resté pendant 2 jours et après, on est venu direct en France. Et on a trouvé beaucoup de gens français qui nous attendaient, qui étaient tous contents. Il nous a fait des bisous, enfin beaucoup de choses. Il nous avait amené des fleurs, des choses. Moi, il y a des gens qui parlaient, enfin, les gens qui nous ont aidés, qui parlaient, je me disais, mais waouh, c'est quoi cette langue? C'est trop dur à apprendre. Enfin, moi, je comprenais rien du tout, je regardais juste comme ça. Enfin, c'était un choc. Je me disais, mais comment on va comprendre, comment on va savoir parler, tout ça? Et on a resté à peu près un mois, même pas, et il nous a fait tous les papiers pour toutes les choses. Aller à l'école, à savoir... organisé pour beaucoup de choses. Moi, je suis allée en troisième directement. Je suis venue en France, j'avais 16 ans. Et je suis restée pendant 3 ans en Kurdistan. Je savais pas lire ni écrire et tout.
J'ai rencontré Tsultana Lalo en décembre 2020, près de 4 ans après son arrivée. Elle avait 19 ans. Par son intermédiaire et à travers le réseau d'Iwa d'accueil des réfugiés, j'ai fait la connaissance d'autres personnes de la communauté yézidi. Peu à peu, j'ai découvert leur histoire, leur culture, leur façon de voir le monde, les relations humaines, la famille, l'amour, la mort. J'ai rencontré Hossein Roto en 2022. Il est de la même génération que Tsultana et arrivé peu après elle. Hossein est musicien. Il a développé son jeu au saz en arrivant ici. Aujourd'hui, il écrit... compose et chante.
Je suis resté 3 ans et demi, je crois, ou 4 ans. Entre 3 ans et demi, 4 ans, j'étais en Kurdistan d'Irak. De mes 14 ans jusqu'à mes 18 ans. Du coup, t'es étudiant dans les tentes, en fait. C'était assez compliqué, mais on avait quand même réussi de passer des étapes. J'étais en première S et j'avais pas fini mon année. Et je suis arrivé en France. Du coup, en arrivant en France, j'ai commencé la même chose, mais j'ai vite arrêté. Parce que c'était assez compliqué. Je parlais pas. Surtout, moi, je suis vraiment... C'est pas cool la musique, je suis vraiment passionné par les mathématiques aussi. C'était un rêve d'enfance. Quand j'étais enfant, je voulais vraiment... J'avais très envie d'être prof de maths ou ingénieur. En fait, j'aime beaucoup les chiffres. Du coup, en arrivant en France, je comprenais pas toutes les cours, je comprenais rien, mais le maths, quand je regardais, il y avait des choses, je savais faire, en fait, je savais qu'est-ce que c'est, mais j'avais pas de langue, du coup, j'étais là, et le prof, il demande les élèves, et les élèves, ils savent pas, et je le sais, et je n'arrive pas à le dire. Ça m'a vite énervé, du coup, j'ai arrêté. Je suis arrivé en France pendant 4 mois, j'ai pas appris. Je voulais pas apprendre la langue. Je voulais parler à personne. J'étais vraiment enfermé dans mon coin. Il y avait des bénévoles, ils venaient donner les cours pour toute la famille. Tous les jours, il y avait quelqu'un, il venait pour donner une cours. Et moi, j'étais jamais là. J'étais en haut, dans la chambre. Et je partageais pas. Je le disais même pas bonjour à personne, même à ma famille, je parlais pas. Je me suis vraiment isolé de tout le monde. Et au bout de, je pense, pendant 2 mois, j'étais comme ça, ou 1 mois et demi, j'étais comme ça. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, en fait, il faut que je commence, en fait. Pour avancer, il faut pas s'enfermer. Sinon, tu peux pas marcher, tu avances pas. J'apprenais tout seul, du coup. Je cherchais sur Internet et j'ai trouvé, il y a des cours sur YouTube très intéressants. Il y a des profs syriens ou égyptiens. Et dans ma langue, il n'y en a pas. Du coup, j'apprenais arabe français. Ma langue maternelle, c'est pas arabe, c'est kurmanji. Et l'arabe, c'était comme en matière, on apprenait. Mais après, on le utilisait aussi des fois, du coup. Je parle pas parfaitement, mais j'ai le niveau en arabe et je comprenais quasiment tout. Du coup, en arrivant en France, j'ai appris le français avec l'arabe. Et comme je commençais de parler avec les Français me disent, en fait, Oussain, tu parlais pas et t'as fait bam comme ça. T'as explosé. Comment t'as fait? Comment tu parlais? Du coup, après, je dis pas tous mes secrets. Ça. Faut quand même garder un peu pour toi.
La première famille yézidi arrivée dans la Drôme, à Grane, est celle de Shahab Rotou, un des oncles de Hessen. Shahab était employé au consulat de France à Erbil, en Irak, ce qui a facilité la venue de sa famille et de toutes celles qui ont suivi.
Ben, comme j'arrivais en France, et les gens en Irak, ils n'est pas connu en Europe. Il dit, je viens en Europe, je viens, je viens, je viens. Il a compris, il vient en Europe, il juste il gagne l'argent, oui. Il dort, il mange, tout ça. Tu comprends?
Oui, je comprends.
Voilà, en Irak, les gens, ils pensaient comme ça. Les jours que j'arrivais en France, je tournais de la parce qu'André Chassignan, il y en a grand ferme. Il y en a un garage, il y en a tracteur dedans, il y en a le matériel pour travailler agriculture, tout ça. Ben, les jours, j'arrivais, quelques jours après, je bien parce que 2 jours, je n'ai pas dormi avec l'avion, tout ça. Quelques jours après, je tournais dans la maison. La maison André. J'ai trouvé les choses là-bas, il est très vieux, les chaussures pour travailler, le perméable, les choses comme ça. J'ai trouvé là-bas les. Moi, c'est un pays de travail, ça. J'ai décidé pour travailler plus fort, plus fort, plus fort. Voilà. Oui. Si tu ne travailles pas, tu ne peux pas rester vivre. J'ai décidé. Derrière de la maison de André Chassignan, j'ai compris, il y en a travail ici. Si pas tu travailles pas, tu restes pas resté vivre. Voilà, j'ai compris. C'est pas comme en Irak. Voilà. Ouais. Et après, nous, Monsieur Chassignan a trouvé un travail pour moi chez les gens, tout ça. Un jour là-bas, un jour là-bas, un jour là-bas. Une semaine là-bas, une semaine là-bas. Et après, j'ai trouvé le travail, c'est chez Vovi. Mais comme chez Vovi, je travaillais tout avec les Romains, jamais parlé français. Tout par les Turcs, il n'est jamais parlé français.
Oui.
C'est pas de français là-bas. Et en plus, les Espagnols, avec Romanie, avec Espagnol, tout les parler espagnol ensemble. Et en plus, nous, les deux personnes mexicaines aussi, ils parlaient espagnol.
Oui.
Voilà.
Tu as appris l'espagnol
c'est...
alors?
Mais non, non, non. Mais j'ai perdu beaucoup chez vos vies.
Bonjour. 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 Oui,
attends, je vais peut-être le mettre avec toi. Je vais
pas décoller. Non. Assieds-vous là où il faut, attention. Sultana, tu
connais tout le monde?
Oui.
La dame qui est à côté de toi, non.
Voilà.
Je l'ai jamais vue.
Oui.
Le monsieur, non.
Voilà, mais c'est ça. Je pense qu'il y a des personnes que vous ne connaissez pas, du coup, voilà, c'est bien.
Jean-Claude, moi je m'occupe de la recherche de logements pour les familles de réfugiés qui veulent s'installer dans le Diwa.
Bonjour tout le monde, je suis irakien.
Chab, on ne rit pas.
Oui.
Chacun son
truc. Bien dit, hein.
Oui, je m'appelle Bayrose. J'ai femme foyer. J'ai un enfant. Merci tout le monde.
Alors moi c'est Anne Reynard, je suis au Redar depuis le début, depuis la fameuse réunion qu'il y a eu un soir. Et je me suis sentie très concernée parce que moi-même je suis migrante, voilà, je suis une enfant, j'avais 10 ans d'Italie. Et c'est quelque chose qui me touche toujours d'accueillir et de faire que les personnes qui arrivent se sentent bien et qu'elles ne restent pas étrangères pendant des années. Ce que moi j'ai subi pendant longtemps, de ne pas avoir été acceptée ni intégrée. Donc je ne voulais pas ça pour les autres et voilà, je suis dans l'association depuis le début.
Je vous rappelle quand on s'offusque des fois de voir trois familles arriver et 15 ou 17 personnes, qu'en mars 1939, on a accueilli 480 Espagnols à la gare de Valence, à la gare de Die. Et qu'on a fait la soupe à la sous-préfecture, qu'on les a logés au Martouret, et que ça n'a pas posé de problème, et qu'on les a dispatchés dans une centaine de familles, dans les scieries, dans les exploitations agricoles, et qu'on a accueilli ces gens-là, et qu'ils ont fait leur place. Ils sont rentrés au conseil municipal, ils ont monté des entreprises, ils sont rentrés dans les associations. Carod, la grande firme Carod, c'est un Espagnol qui est arrivé, qui a franchi la frontière avec tous les anarchistes et les syndicalistes poursuivis par le franquisme. Donc ils ont fait leur trou. Et cette hospitalité, quand on a fondé le Redar, on a voulu la revivifier. On avait invité, certains s'en rappellent peut-être, à l'Assemblée Générale, Edmé de Robert, parce qu'elle avait accueilli des Juifs rue de l'Armellerie, et Michel Serrato, qui vient de décéder, qui habite juste là, et qui était un des réfugiés espagnols et qui a franchi la frontière espagnole dans la neige en 1939. Donc, c'était de réinscrire cette histoire dans de l'accueil. C'est pour que ces gens-là, ils fassent souche sur ce territoire, qu'ils viennent enrichir la vie sociale et culturelle du territoire, qu'ils nous apportent énormément de choses, rien que ne serait-ce que de nous apporter des différences, des choses qui vont nous percuter, qui vont nous toucher, et on va être obligé d'ouvrir nos portes et d'ouvrir nos cœurs à un certain moment. Et le Diwa s'est construit pour beaucoup grâce à des étrangers. Prenez l'annuaire du téléphone, regardez les noms d'Italiens et d'Espagnols, ça fait plaisir à voir quand même. Donc, c'est ça de faire une société.
Et la famille, la première famille que nous avons accueillie, dans le Diwa est une partie d'une première cellule familiale qui était arrivée sur Cré déjà. On a été contacté par Ada, donc Unida Lalo, qui était déjà arrivée avec son mari et premier enfant et qui voulait faire venir ses parents et le reste de sa famille. Et c'est comme ça que ça s'est fait en fait. Il y a une demande qui est faite par les familles qui sont là-bas dans leur pays auprès du consulat d'Erbil, consulat français, pour partir. Donc ça, c'est le préalable. Il faut que ces demandes, ces familles fassent la demande de partir. Et en contrepartie, le consulat, ce qu'il veut avoir, lui, c'est l'assurance que ces familles ne vont pas débarquer comme ça, n'importe où, n'importe comment. Erbil demandait à ce que l'association, comment on pourrait dire ça, prête ce porte-caution finalement, en donnant l'assurance du logement et d'un accompagnement. Voilà, donc qu'est-ce qu'on savait de la situation? Finalement, assez peu de choses, et on a découvert au fur et à mesure des contacts avec la famille. On s'est étonné du fait que quand ils sont arrivés dans cette maison, qu'on a tous ensemble nettoyé, arrangé, on a fait la collecte des meubles, on a fait la collecte de linge, de couverture, etc. On avait fait une collecte pour amener les premières boîtes de conserve, les farines, etc. Et on était tous là à dire, est-ce qu'il manque rien? Est-ce qu'on a... Voilà, il y avait une forme d'exaltation, d'excitation, d'inquiétude, tout ça s'était mélangé. Et puis une bonne ambiance. Moi, je me revois en train de nettoyer les murs de la maison. Enfin voilà, c'était sympa. On était ensemble dans le plaisir de vivre ce moment-là, avec hâte de les voir arriver. Et on s'était étonné, voilà, c'est ça que je voulais dire, on s'était étonné que les 3-4 premiers jours, ils sont arrivés et ils ont fermé les volets et ils sont restés entre eux dans une maison fermée. Et on se demandait quand c'est que les volets allaient ouvrir. Et petit à petit, effectivement, les volets sont ouverts et on a réalisé, je crois que ça a été très symbolique pour nous de réaliser à quel point, effectivement, ces gens-là sont arrivés dans une peur extrême et dans un besoin immense de s'apaiser, quoi, avant de pouvoir s'ouvrir à la nouvelle vie qu'ils avaient devant eux, là, possiblement, en tout cas, voilà. Ça a été très fort ce temps-là, quoi.
Et je vis depuis en Ouzbékistan d'Irak, je suis yézidi. Et les yézidis, c'est une petite communauté qui vit en Irak, aussi aujourd'hui dans beaucoup d'autres pays, comme Arménie, Géorgie, Turquie, Russie, Allemagne, en France aussi. Et Kurmandji, c'est la langue maternelle. C'est ma langue, et aussi les Kurdes aussi, à plus que moitié, parlent cette langue. Et en fait, les Kurdes et les Yézidis, c'est la même culture, c'est la même musique, c'est la même langue. La différence entre les deux, ça, en fait, ils ne sont pas la même religion. C'est juste ça la différence. Les Kurdes, ils sont musulmans, les Yézidis, ils sont Yézidis. Et on va commencer par une chanson où je chante pour ma ville Shengal. Et les Yézidis ils sont vécus 64 ans, je me cite, dans son histoire. Et du coup, moi, j'ai survécu la 74e. Moi, je préférais la 70, mais les génocides ont choisi pour moi. Merci. J'ai dit, les années passent et tu souffres toujours, Shengal. Les fleurs sauvages sont poussées dans les lacs de sang et j'ai l'espoir qu'ils m'apportent le parfum de la paix. Oh,
Uridar, ben oui, j'étais là à la réunion publique au tout début. L'association donc s'est constituée là et puis ils ont demandé des volontaires pour faire partie du conseil d'administration. Et puis ben, j'ai levé le doigt. Voilà. Alors pourquoi ? Ben, peut-être que je pourrais répondre honnêtement, j'en sais fichtrement rien sur ce moment-là. Non, mais c'est vrai. Hein. Pourquoi j'ai levé le doigt ce jour-là ? Parce que voilà, j'avais envie de m'investir dans une association et puis et ça m'a intéressée. Après coup, je pourrais dire que c'est peut-être lié à l'histoire de ma mère qui a vécu la guerre, qu'elle a été obligée de fuir les Allemands, enfant, qu'elle s'est retrouvée dans la situation de fuite et du traumatisme que ça lui a fait. C'est une histoire assez difficile, l'histoire de ma mère aussi. Elles sont allées à Marseille avec sa mère et sa sœur dans l'histoire de retrouver son père, en fait, qu'elle n'a jamais retrouvé. Elles sont retrouvées à l'hôtel, comme ça se faisait beaucoup. Il y avait beaucoup à Marseille des gens qui fuyaient la guerre pour partir aux États-Unis. Donc, il y avait beaucoup d'hôtels qui hébergeaient des réfugiés de toutes sortes, en fait, qui étaient sur le départ. Et en fait, ben, ma mère, elle s'est retrouvée placée à l'orphelinat, en fait, à l'âge de 8 ans. Et en plus, à l'époque, les orphelinats, c'était pas cool. Donc, elle a subi des sévices corporels, des sévices psychologiques. Déjà qu'elle avait subi des choses difficiles du fait de cet exil, de cette fuite-là. Je t'ai jamais raconté ça. Hein.
Si, je t'avais pas raconté.
Ouais. Et voilà, ça a été très très dur pour ma mère et elle a toute sa vie, elle en a porté le stigmate, quoi.
Et est-ce que tu te rappelles de l'arrivée de la famille de Sultana ?
Alors l'arrivée de famille de Sultana, non, je ne l'ai pas vraiment vécue parce que ce n'est pas moi qui m'occupais de la famille au départ.
Moi je pense que je t'ai vue, c'était la première fois, tu étais dans le jardin en train d'aider Agile par rapport à son bac.
Non, mais je suis venue bien avant pourtant.
Moi, je me rappelle de ça.
Ah bon ? Mais je m'occupais déjà de vous à ce moment-là. On était allés à la mer, tout ça.
On est allés où déjà ?
On a fait deux fois. On a fait en Camargue. Je les ai amenés au camping des Espillettes. On était la première fois
aussi avec Mireille et sa copine. Et après à Marseille.
Ça, c'était génial parce que c'est la première fois où tu rentrais dans la mer. Ouais. Tu te souviens de ça ? Moi, je me souviens de toi. Où tu rentres, tu avais un peu peur, tu étais ouh, c'est quoi ce truc là, ça c'est grand, c'est plat, mais ça bouge quand même, c'est tout bleu. Et tu rentres là-dedans, et puis tu touches l'eau, tu te dis, tu goûtes, tu dis,
oh, c'est trop salé.
Ouais,
vrai, tu as trouvé bizarre parce que la première fois tu vas dans un endroit comme ça. Ouais, je me souviens, j'ai dit oh, c'est trop salé. C'était trop salé.
Et c'est la première fois que tu touchais la mer, que tu es allée dans la mer. C'était pas rien ça, hein?
C'était bien.